RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Haïti, frappé le 4 octobre dernier par Matthew, un ouragan de catégorie 4. Des vents soufflant jusqu'à 240 km/h et des pluies diluviennes ont entièrement dévasté la péninsule sud, le grenier du pays. Les récoltes ont été ravagées, 8 habitations sur 10 détruites ou lourdement endommagées. Plus de 500 personnes ont trouvé la mort dans la catastrophe, 1 400 000 autres ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Alors les grandes organisations internationales sont sur place, mais manquent de moyens. L'aide tant attendue n'arrive pas encore partout, surtout dans les zones rurales reculées. Nous avons donc décidé de laisser la parole aux sinistrés. Haïti, 2 mois après le passage de l'ouragan Matthew, un grand reportage de Stéphanie Schuller et Marc Fichet.
Le lycée Saint-Luc à Jérémie, chef-lieu du département de la Grand'Anse.
Je suis Walden Germain, originaire de Jérémie, et je suis enseignant. Les élèves que j'ai eus hier, aujourd'hui, c'est des mondes différents. Et les professeurs et les élèves, on est mentalement frappés. Et là, il fallait venir en aide, il fallait faire un débriefing psychologique pour les élèves. D'abord, j'ai commencé par leur demander de raconter leur histoire. Comment est-ce qu'ils ont vécu le passage de Matthew?
Et puis, nous sommes 11 à tout.
Il a commencé à pleuvoir. Le vent secouait notre maison. Un arbre s'est abattu sur elle. J'avais très peur. C'était la première fois que j'assistais à un tel événement. Je crois que c'est là que j'ai pris la dimension de la catastrophe qui s'annonçait.
Vers 11h, le vent sifflait si fort que j'avais mal aux oreilles. J'ai commencé à avoir peur. Depuis une fenêtre, j'ai vu le vent détacher les toits des maisons. Tout d'un coup, notre ruelle s'est transformée en torrent qui a emporté tout sur son passage, même de gros rochers. Et dans l'eau, les morceaux de tôle arrachés coupaient les pieds des gens en fuite.
Deux, trois jours après le passage de l'ouragan, on ne pouvait rien faire parce que l'eau était absolument partout. J'ai vu beaucoup de gens dans les rues qui n'avaient rien à manger. Cela m'a vraiment affectée. J'ai pu récupérer quelques vêtements et je les ai partagés avec ceux qui n'en avaient pas.
Merci à tous. Donc, comme je vous le disais, nous avons perdu beaucoup de semaines de cours. Ce sont surtout les élèves qui passent le brevet cette année qui vont devoir redoubler d'efforts. Vous ne pensez pas? Alors êtes-vous prêts? Ok, alors vous allez devoir être courageux pour surmonter le traumatisme de l'ouragan et vous remettre au boulot. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas de société sans école. Il n'y a pas de pays sans école. Et c'est mieux de continuer la vie. Donc encore une fois, bon retour à l'école et malgré tout, je vous souhaite du succès pour vos examens.
Et les écoles ont commencé à ouvrir leurs portes timidement.
Quand vous dites elles ouvrent timidement leurs portes, c'est-à-dire?
Je dis timidement parce que pour la grande majorité, les écoles ne sont pas encore ouvertes. Tous les enfants ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de vêtements. L'ouragan Matthew est parti avec tout. On avait des classes qui sont clairsemées. Les élèves sont partis. On les voit dans les bus, c'est craqué quand les bus partent pour Port-au-Prince. Et pourtant, quand ils viennent de Port-au-Prince, c'est presque clairsemé, je peux dire. Et c'est tristissime de voir ça. Hein. On est dans un pays où l'on ne peut pas vivre.
Carrefour Bac à la sortie de Jérémie. C'est d'ici que partent les bus couverts d'inscriptions religieuses hautes en couleur en direction de Port-au-Prince. Et cet après-midi encore, les voyageurs sont plus nombreux que les places disponibles dans les véhicules.
Je m'appelle Marie-Lydie Cajou. Je pars définitivement. Jérémie a été totalement détruit, les écoles aussi. Du coup, je vais habiter à Port-au-Prince. Mon père vit là-bas. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose avec moi. J'ai déjà tout déménagé avant.
Angelo, lui, n'est pas originaire de Jérémie, mais d'une zone rurale dans les montagnes.
Je pars à Port-au-Prince parce qu'après la catastrophe que nous avons subie, ce département se trouve dans une grande précarité. Alors qu'avant, c'était le grenier du pays ici. Maintenant, il n'y a presque plus rien.
Tout ça dans le département.
Bon courage à l'air, bon voyage.
La rue du Quai, au centre-ville de Jérémy, à deux pas de la mer. Les maisonnettes, détruites par l'ouragan, ont été rafistolées le mieux possible par leurs propriétaires, mais ces réparations sommaires ne suffisent pas pour protéger les familles de la pluie qui tombe sans cesse depuis quatre semaines. La petite ruelle, et avec elle les maisons et leurs habitants, sont engloutis dans un mélange nauséabond de vases et de déchets. Inquiet, Lifette Lustin observe ses enfants qui tentent de traverser la rue pour rejoindre la maison, de la boue jusqu'aux genoux. Les mots lui manquent.
C'est un quartier très, très maltraité.
Ici, vous êtes dans un quartier très pauvre qui a été dévasté. Regardez la rue. C'est inexplicable. Nous sommes réduits à vivre à l'état primitif. Même des cochons ne vivraient pas ici. Quand l'eau monte, elle apporte des ordures. Ce n'est pas un endroit pour vivre. Mais comme nous n'avons pas les moyens pour partir, nous sommes obligés d'y rester.
Est-ce que vous avez reçu de l'aide ?
Une seule fois.
C'est arrivé une seule fois. Les tôles que vous voyez sur le toit sont des tôles usées que j'ai ramassées pour pouvoir réparer ma maison. Je ne pouvais pas attendre indéfiniment l'aide de l'État. Un sac de blé, un gallon d'huile et une bâche, voilà tout ce que j'ai reçu. J'en prends Dieu à témoin, je ne mens pas.
Près de deux mois après le passage de Matthew, les bâtiments officiels, eux aussi, portent toujours les séquelles de l'ouragan. Dans le centre-ville, nous retrouvons Michelson Samedi, jeune étudiant infirmier, rencontré dans les jours qui ont suivi la catastrophe.
On est en face du tribunal de paix de Jérémy, et tout près de la prison civile aussi. Tu vois, après l'ouragan, il y a le toit du tribunal qui s'est enlevé. Plus de deux mois après, il n'y a aucune intervention qui est faite. Ça reste comme elle était après l'ouragan. Le ministère de la Justice, l'État haïtien, ne commence pas encore à recouvrir les toits du tribunal et quelques dommages au niveau de la prison civile de Jérémy.
On va faire un tour au marché. Les rues étroites du marché grouillent de monde. Serrées les unes contre les autres, les vendeuses ont transformé les trottoirs en étal, mais dans les paniers, légumes et fruits se font rares. Dans un coin à part, on retrouve les vendeuses de charbon de bois.
Marie-Claude,
il y a une augmentation du prix sur le marché parce qu'on ne peut pas faire venir le charbon depuis des sections communales. Car vous savez, il pleut sans arrêt. Les routes sont maintenant inondées et ils ne peuvent pas le transporter. Mais les Jérémiens ont grand besoin de charbon par ce temps. C'est pourquoi il y a cette augmentation des prix. Vous savez, durant le passage de l'ouragan, tous les arbres sont tombés en province. Nos manguiers, nos avocatiers, nos campêches, tous sont par terre. On est donc obligé de les brûler pour produire du charbon de bois. Si ces arbres n'étaient pas tombés, jamais on les aurait coupés, parce qu'on sait ô combien ils sont importants pour nous. Mais comme ils sont tombés, on est obligé de les utiliser pour produire du charbon de bois.
Est-ce que vous craignez, madame, en fait, qu'une fois les inondations terminées, si le charbon de bois en fait, des autres zones autour va arriver sur le marché de Jérémy, que vous allez avoir une baisse de revenus?
Est-ce qu'on pensait pour y avoir une baisse?
Oui, la baisse, oui.
Oui, oui, ça va rebaisser. Et à ce moment-là, il ne nous restera vraiment plus rien pour vivre. Le charbon est désormais notre principale source de revenus. Nous n'avons plus de rangées, nous n'avons plus de compte à loup. L'eau a emporté nos ignames. Je crains le pire.
Moi-même, je dis ça, pire est pour nous.
Si la précarité est omniprésente à Jérémy, le chef-lieu de la Grandence, elle se fait plus pressante encore dans les 11 autres communes du département. Nous quittons Jérémy par l'ouest, direction Dame-Marie. Le paysage devient rural. Les pluies incessantes ont rendu la route presque impraticable. Le sol, déjà gorgé d'eau par le passage de Matthew, n'absorbe plus rien. Les ruines des maisons recouvertes de bâches semblent flotter sur de nouveaux lacs d'eau stagnante, desquels s'échappent chaque jour des millions de moustiques.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Comment vous êtes? Vous voulez acheter un bagage?
Oui, s'il vous plaît.
Ok, qui est-ce sont affaires
est-ce que vous comme soda, s'il vous plaît?
Oui, oui, comme soda.
Marie-Solange Jules est infirmière de formation. Depuis la catastrophe, elle pratique un petit commerce informel sur le bord de la route. Nous sommes
à Buvette, une section rurale de la commune de Mafran.
C'est un bon ami qui passait le checker avec moi.
C'est un bon ami qui, après la catastrophe, m'a donné un peu d'argent. Je l'ai investi dans une petite glacière en me disant, si je dépense tout, ça va être encore plus difficile. Dans la glacière, je garde des boissons gazeuses. Si je fais 5 gourdes de bénéfices par boisson, je peux acheter du sucre ou du savon le lendemain matin pour ma famille.
Famille m'a capable de bénéficier à l'aide de TBC, c'est ça que fait me faire.
L'ouragan a donc aussi durement touché la classe moyenne.
Nous tous obligés évacuer, nous quitter Kainou.
La crue nous a surpris. Nous avons fui la maison pour nous réfugier dans la montagne. L'eau a emporté absolument tout dans ma maison. Nos animaux aussi ont été emportés par les flots. J'ai encore ce traumatisme en moi. Regardez-moi. En tant qu'infirmière, je ne devrais pas être dans un état pareil. Je porte des sandales en plastique. Mes enfants aussi. Ma famille n'a plus rien. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Nous nous sentons humiliés, bien que ce ne soit la faute de personne. C'était une catastrophe naturelle et on l'accepte. En revanche, nous demandons si la communauté internationale sera capable d'apporter une réponse d'urgence, car Haïti est un pays déjà pauvre qui est devenu encore plus pauvre. Nous n'avons pas les moyens d'aider toutes ces communes dévastées de la Grand'Anse et qui sont des victimes.
Plus l'on s'éloigne des principaux axes routiers et plus les conditions de vie deviennent difficiles pour les sinistrés. Après 2 heures de piste rocailleuse et glissante en raison du mauvais temps, nous arrivons à Prévillé, une section communale de Jérémy, nichée dans la montagne.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Avant le passage de l'ouragan, un centre de traitement contre le choléra existait ici. Cette structure a été détruite par Matthew. Dans ce qui reste du dispensaire, 2 infirmières s'occupent des malades.
Après l'ouragan, Médecins du Monde nous a envoyé ici. Tantôt, il y a diminution des cas, tantôt, il y a augmentation. Quand la pluie tombe à répétition, il y a augmentation, il y a flambée de choléra. Quand il y a flambée, on peut recevoir 30 patients, 25 patients.
Comment les cas de choléra sont pris en charge ici dans votre centre de santé?
Après l'ouragan, le CTC s'est brisé. On a utilisé des moyens du bord.
Une longue galerie donnant sur l'arrière-cour sert de salle pour les malades. 8 patients souffrant de déshydratation grave sont allongés sur les 8 lits, dont la moitié est défectueuse, que possède le dispensaire. D'autres patients occupent de simples bancs en bois. Un papa tient son petit garçon de 2 ans au-dessus d'un seau. Une aide-soignante verse des produits chimiques sur les selles et les vomissements.
On n'a pas vraiment des moyens pour prendre soin des patients. On a besoin d'un lit ici pour mettre les patients. Et les personnes viennent de différentes sections communales.
Comment ils arrivent chez vous?
Bon, et normalement, les patients arrivent, on les porte en brancard aussi. Par exemple, si on a un patient sévèrement déshydraté, il ne peut pas marcher pour arriver ici. Par exemple, une zone de très longue distance qui peut prendre 5 heures de temps de marche avant d'arriver dans le centre, c'est très difficile.
Ketli Francius connaît bien cette situation. Depuis sa maison à Fraise, une section communale de Mafran, elle a dû accompagner à pied 3 malades, tous membres de sa famille, à travers la montagne jusqu'à Prévillé.
Le nombre élevé de cas de choléra s'explique par la pollution des sources, par les eaux de pluie. Et comme on ne le savait pas, on a bu cette eau et on a contracté le virus.
Est-ce que vous avez eu des vaccins contre le choléra? Ah, c'était quand ça?
Nous, une semaine passée.
Oui, la semaine dernière. Maintenant, il faut attendre 6 semaines pour avoir la piqûre de rappel. Et du coup, nous avons encouragé d'autres personnes à se faire également vacciner pour nous aider à lutter contre le choléra.
Pour qu'il y ait des noms, bata choléra.
730 000 personnes ont été vaccinées contre le choléra dans les zones affectées par le passage de Matthew. Mais déjà, les grandes organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Un autre fléau menace la population, la malnutrition, avec de plus en plus de cas sévères.
Mon mari est décédé. Je suis la chef de la famille. L'ouragan a tout dévasté. Je n'ai plus de moyens pour nourrir mes 6 enfants.
Venise Doll, habitante de Guinaudet.
Vous me voyez tenir cette machette avec laquelle j'espérais trouver quelques malangas ici, des féculents. Mes enfants sont là et depuis ce matin, je ne trouve rien pour les nourrir.
Combien de repas par jour vous faites aux enfants ?
Combien je fais par jour pour les enfants ?
Je leur prépare un seul repas par jour car je ne trouve rien dans l'après-midi. Du coup, ils ont du mal à s'endormir le soir. Ils passent la nuit le ventre vide. Notre vie est d'une précarité extrême.
Moi, c'est Richmond Génère. C'est commune Beaumont.
Je m'appelle Génère Richmond. J'habite dans la commune de Beaumont, la localité d'Eka. Tout le monde sait que nous vivons ici, en haut de la colline, au bord de la route nationale.
Génère, nous sommes venus vous voir il y a 2 mois, après le passage de l'ouragan.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé chez vous ?
Sauf ça qui changeait, seulement la nature.
La seule chose qui a changé, c'est la nature. Grâce aux pluies de ces dernières semaines, elle est de nouveau verdoyante. Nous voyons vraiment une nette différence. Les feuilles recommencent à pousser sur les pieds de bananiers, même si ces bananiers prendront 8 à 10 mois avant de porter des fruits. Mais c'est quand même un espoir. Si on devait attendre l'aide des autorités, comme les maires, on serait déjà mort de faim. Aucune autorité ne nous a fourni des aquatabs ou des pansements, ou même des kits alimentaires.
Moi, on passe moi, moi, on quitte.
Génère, dites-moi, vous serez prêt à semer?
Oui, la terre et nous prêts pour nous semer.
Oui, la terre et nous-mêmes, nous sommes prêts pour semer. Nous avons déjà déblayé tous les champs, nous avons enlevé tous les arbres tombés. Maintenant, c'est la saison pour replanter. Le problème, c'est que nous n'avons pas de semences ni d'argent pour en acheter. Et comme on a perdu tout ce que nous possédions, notre précarité s'aggrave de jour en jour. Je suis fier, je sais que je suis un grand agriculteur. J'ai toujours été capable de nourrir ma famille. Mais peu importe ce que j'ai été dans le passé, désormais c'est un petit agriculteur qui vous parle. J'ai tout perdu. Pour redevenir un grand agriculteur, j'ai besoin d'argent pour acheter des semences.
Grand planteur encore, faut avoir les moyens pour acheter des semences.
Nous retournons à Jérémy pour laisser le mot de la fin à un homme exceptionnel. Maurice Léonce, ancien footballeur professionnel, professeur, poète, chanteur et un exemple pour des générations de Jérémiens. À 95 ans, il porte en lui un siècle d'histoire vivante et une parole qui compte.
On a subi des dégâts extraordinaires. Nous sommes dans une réalité brutale. Nous en souffrons. Nous ne pouvons pas tous les jours ne pas manger, ne pas boire. Non, c'est inacceptable. Inacceptable. Non, il faut qu'il y ait d'autres mesures. Il faut que les choses se fassent bien, dans l'équité, la droiture, l'honnêteté. Mais ça va prendre du temps pour que les choses reprennent l'équilibre économique, politique, social, culturel et éducationnel. Et ce n'est pas le gouvernement, c'est le département qui doit se dégager. On a des recettes, mais les recettes vont où ça ? En province, on néglige la province. Ce que je souhaite pour mes 95 ans, que ceux qui vont gouverner, qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que le pays en a besoin de discipline, une correction aussi, hein? Une certaine droiture. L'homme politique doit être un homme honnête, visionnaire, hein? Et utile au pays.
C'était Haïti, 2 mois après le passage de l'ouragan Matthew, un grand reportage de Marc Fichet et Stéphanie Schuller, réalisation Eva Moschinski. Un grand merci à Markintov Casimir en Haïti.
Ma prière, bon Dieu, pour lui, pour moi, moi, le paquet belle. Tant qu'il y aura eu, à la détraque, mes amis, m'a passé, peut-être un petit viti. À la démisère, mes amis, m'a passé, parce que l'irait même. Content de pour lui, c'est en cachette, l'ivini. Ma prière, bon Dieu, pour lui, pour moi, moi, le paquet belle. Tant qu'il y aura eu, moi, qui t'ai mêlé ma veille, qui mêlé ma veille, qui t'ai mêlé ma veille, qui mêlé ma veille, qui t'ai mêlé ma veille, qui mêlé ma veille, qui t'ai mêlé ma veille, qui mêlé ma veille.